Alors, on est le dimanche avant Noël. Et je me suis dit, bon, de quoi allons-nous parler le dimanche avant Noël? Je me suis dit, bon, on pourrait parler des cantiques de Noël. C'est-à-dire des cantiques de Noël qui se trouvent dans la Bible. Il y en a trois. Le cantique de Zacharie, le cantique de Marie, et aussi le cantique des anges. On aurait pu, mais on ne va pas parler de ces cantiques. On aurait pu parler, merci beaucoup Pierre, on aurait pu parler aussi de la généalogie de Jésus, de Matthieu chapitre 1. On aurait pu se concentrer sur les quatre femmes, sur cette liste d'une quarantaine de prénoms. On aurait pu parler de Rahab, ancêtre de Jésus. On aurait pu parler de Tamar, une ancêtre de Jésus, de Ruth, et aussi de la femme d'Uri. Vous savez qu'elle s'appelait Bathsheba, mais Matthieu ne dit pas Bathsheba. Matthieu dit la femme d'Uri. On aurait pu parler, pourquoi ces quatre femmes? Mais on ne va pas en parler. On aurait pu parler de la peur à Noël. Mais si vous étiez là il y a 4 ans, à cette époque-ci, c'était le thème de mon message avant Noël, en 2012. Peur à Noël peureux ou à Noël joyeux. On aurait pu parler aussi de la petite phrase dans Galates 4, « Lorsque les temps furent accomplis » ou « Lorsque le moment est vraiment venu, Jésus est venu, Dieu envoya son Fils. » Pourquoi est-ce que Jésus est né il y a 2000 ans? Pourquoi ne pas il y a 1000 ans ou il y a 3000 ans? Il y a des raisons bien précises pour lesquelles Dieu a envoyé son Fils à ce moment-là. Mais on va garder ça peut-être pour une autre année. On aurait pu parler aussi des anges. Le ministère des anges à Noël, c'est tout un thème riche et enrichissant. On aurait pu parler de la soumission de Marie, de la réactivité des bergers, des cadeaux des mages. Pourquoi ces trois cadeaux-là? Ça vaut aussi tout un dimanche matin. J'espère que je ne suis pas en train de vous frustrer, au fait, en disant ce dont on aurait pu parler. On aurait pu parler aussi des erreurs dans nos traditions. On parle toujours des trois rois mages. Est-ce que la Bible dit qu'ils étaient trois? La réponse? Non. Est-ce que la Bible dit qu'ils étaient rois? Non. On aurait pu parler aussi de la question de nos crèches. C'est-à-dire, souvent, on voit sur des cartes ou dans des crèches, il y a l'étable, les animaux, les bergers et les mages dans l'étable. Mais la Bible dit que les mages ne sont pas venus à l'étable. La Bible dit qu'ils sont venus dans une maison. Donc il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais on ne va pas en parler. Bon, pour ne plus vous frustrer, j'ai décidé de parler de cet homme, Joseph, et surtout de son courage, un homme courageux. Alors, avant de parler du courage de Joseph, rappelons-nous que dans la Bible, il y a pas mal de Joseph. Je n'ai repéré une douzaine. Dans l'Ancien Testament, il y en a 5, le fils de Jacob, un espion, un musicien, un contemporain d'Esdras et un sacrificateur. Les références sont sur l'écran. 5 dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y en a 7. Il y a bien sûr l'époux de Marie, il y a Joseph d'Arimathée qui a enterré Jésus avec Nicodème, il y a Barnabas dans les Actes qui s'appelait aussi Joseph. Jésus avait un frère. Vous savez, Jésus avait plusieurs frères et plusieurs sœurs. Et les noms des frères, 4 frères, sont donnés, dont Joseph. Et puis, il y a 3 ancêtres dans la généalogie de Jésus, selon Luc chapitre 2. Pardon, Luc chapitre 3. Mais nous allons parler donc de Joseph, l'époux de Marie. Et je vous invite à une première lecture. On va faire 3 lectures ce matin. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. À partir du verset 18. Donc, il y a des textes que vous connaissez, mais des textes qu'il faut toujours lire et méditer et s'arrêter parfois sur un mot ou sur une phrase. Matthieu 1, à partir du verset 28. Pardon, 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. J'ai trois raisons pour lesquelles je dis que Joseph était un homme courageux. La première raison, il était courageux parce qu'il était prêt à dire adieu à sa réputation. Adieu à sa réputation. Essayons d'imaginer la honte. Marie était enceinte. Il n'était pas, d'une part, il n'était pas marié, donc c'était la honte. Et d'autre part, Joseph n'était pas le père. Alors, on marche sur la tête ou quoi? Enceinte, pas mariée, et le papa, inconnu au bataillon. Essayons d'imaginer Joseph à l'atelier. Il était charpentier, avec ses collègues, en train de se justifier. Quand il dit, c'est pas mal le père. Alors, vous pouvez imaginer les moqueries de la part de ses copains. Ah ben, il faut faire un test de paternité. Il faut vérifier le groupe sanguin pour trouver qui est le père. L'ADN de cette petite. Mais Joseph, la honte d'être avec sa fiancée, enceinte, sans qu'ils soient mariés. Et sans qu'ils aient couché ensemble. Ça aussi, il faut bien préciser. Lorsque l'ange vient voir Marie, elle dit, je ne connais pas d'homme. Connaître dans le sens sexuel. Mais elle va avoir un enfant. Au premier siècle, c'était vraiment scandaleux. Au 21e siècle, c'est monnaie courante. Parfois même parmi des chrétiens. Mais au premier siècle, et selon la loi, c'était scandaleux. Si Joseph avait eu envie de trouver un avocat, aucun avocat ne l'aurait défendu parce que le code civil était clair, noir sur blanc. Il devait être lapidé. S'ils avaient couché ensemble avant de se marier. D'ailleurs, ça c'est un sujet que nous abordons avec chaque couple qu'on prépare au mariage. Les relations conjugales ou sexuelles avant le mariage. Parce qu'on constate aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, de jeunes chrétiens, ignorent ou alors ne tiennent pas compte de ce que la Bible dit à ce sujet-là. Mais Joseph, j'ai dit qu'il était un homme courageux parce qu'il était prêt à rester avec Marie. Malgré le qu'en dira-t-on, malgré les rumeurs, malgré les bruits de couloir, malgré les mensonges. Il était donc courageux parce qu'il était prêt à accepter cette situation sans comprendre le pourquoi et le comment. Mais il sait que Dieu lui a dit, tu prendras comme femme Marie. Il a obéi et il était prêt à dire adieu à sa réputation. Et accepter que les gens disent n'importe quoi sur lui. Deuxièmement, Joseph était courageux parce qu'il était prêt à ne pas négocier avec Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de vouloir marchander avec Dieu? Tôt ou tard, tout chrétien essaye de marchander avec Dieu. Il y a des précédents bibliques. Abraham, Seigneur, s'il y a 100 personnes dans ce village, n'envoie pas le jugement. S'il y a 80 personnes dans ce village, n'envoie pas de jugement. Dans le Nouveau Testament, un jeune homme vient voir Jésus pour dire, je veux être ton disciple, mais je veux d'abord attendre que mon père décède, que je l'enterre, que ma mère décède, que je l'enterre. Et après ça, si tu veux bien m'accepter, je veux bien devenir ton disciple. Et Jésus a refusé de négocier avec ce jeune homme. Quand nous essayons de négocier avec Dieu ou de marchander avec lui, n'oublions pas la question dans cette salle évangélique que je vous ai montrée. Qui est Dieu? Et surtout la réponse, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et qui sommes-nous pour essayer de négocier ou de marchander ou de faire un deal avec le Seigneur du ciel et de la terre? Il est le potier, nous sommes l'argile. Je rencontre un chrétien qui dit, je prie que ma copine se convertisse. Et j'ai déjà promis à Dieu, si ma copine se convertit, eh bien je vais aller à l'étude biblique chaque semaine. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'étude biblique chaque semaine, déjà maintenant? Je pense au jeune chrétien qui dit, j'ai prié pour une promotion. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si j'ai la promotion au boulot, si j'ai une augmentation de salaire, je promets de te donner 10% de mon salaire. Et je me dis, qu'est-ce qui t'empêche de donner 10% de ton salaire aujourd'hui? On peut essayer de marchander avec Dieu. Ce n'était pas le cas de Joseph. Il n'a pas fait preuve de la procrastination. Il n'était pas un procrastinateur, c'est-à-dire il ne voulait pas remettre au lendemain. Le jour même ou le lendemain, il faut dire, après la vision de la nuit, tout de suite, à son réveil, il prend sa femme et il obéit au Seigneur. Il ne voulut pas remettre à plus tard. Il était prêt à renoncer à marchander avec Dieu. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, si nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Et je peux vous dire que si Dieu vous parle de quelque chose, un jour, dans votre culte personnel, lors d'un chant, lors d'un culte, quand vous êtes tout seul dans la prière, si Dieu vous met le doigt sur quelque chose dans votre vie, obéissez tout de suite. Ne remettez pas à plus tard. Il faut du courage pour faire ça. Joseph avait le courage pour obéir sans vouloir négocier avec le Tout-Puissant. On va lire maintenant dans Matthieu chapitre 2. Et je dis que, troisièmement, Joseph était un homme courageux parce qu'il a accepté de quitter son pays, son travail, sa famille. Il était prêt à déménager et à redéménager en peu de temps. Il était prêt à aller en terre inconnue sans Frédéric Lopez, c'est ça? C'est lui l'animateur de cette émission. Matthieu 2, versets 13, 14 et 15. Matthieu 2, verset 13. Lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit, et c'est bien marqué, de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. L'édit du roi Hérode. Tuer les enfants de moins de 2 ans. Pas seulement à Bethléem, mais les versets précédents nous disent, dans tout son territoire, à combien de garçons, pas de filles, mais des garçons de moins de 2 ans, habitaient en Israël à ce moment-là? Nous ne sait. Mais vous vous rendez compte de la radicalité de cette loi? Et vous savez certainement, peut-être pas, peut-être un étranger va vous apprendre quelque chose sur le calendrier français, mais cette loi est rappelée chaque année dans le calendrier français. Vous le savez? Oui? Merci. Anna le savait, c'est très bien. Mais le 28 janvier, le 28 décembre, quel est le saint du jour? Les saints innocents. Et c'est un rappel de cet édit du roi Hérode pour faire mourir les innocents, les enfants de moins de 2 ans. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'était bien sûr une loi terrible. Mais beaucoup de gens tuent beaucoup d'enfants, même aujourd'hui, avec des lois qui les autorisent à faire cela. En tout cas, revenons donc à Joseph et à sa petite famille. Ils déménagent en Égypte et ce déménagement est un DDI, un déménagement à durée indéterminée. Et puis finalement, c'était finalement à durée déterminée parce que après peu de temps, ils devaient quitter l'Égypte. Mais reprenons la lecture, Matthieu 2, toujours, Matthieu 2, verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélius régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Joseph part en Égypte. Joseph revient avec sa famille en Israël. Quelques temps après, quelques mois après certainement. Et quand il revient en Israël, il décide d'aller, parce que Dieu lui dit, avertis, Dieu l'avertit, va dans le nord. Bethléem était dans le sud, il venait de Bethléem. Mais Dieu dit, va 100 kilomètres vers le nord, dans la région de la Galilée, pas loin du lac, et dans la ville de Nazareth. Il faut dire que lorsque Jésus était en Égypte, avec Joseph et Marie, ils étaient dans un sens des réfugiés politiques, des migrants. Ils n'avaient pas de protection dans leur pays d'origine, et dans leur pays d'adoption, ils étaient des étrangers. Mais il faut dire que les historiens nous expliquent qu'à l'époque, il y avait toute une communauté de juifs qui habitaient en Égypte, qui avaient fui Hérode, le dictateur, et qui s'étaient réfugiés en Égypte pour attendre que les choses s'améliorent dans leur pays d'origine. Et il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui, et depuis que le monde existe, quittent leur pays en attendant que les choses aillent mieux. En tout cas, Joseph, Jésus et Marie sont donc en Égypte, ils remontent en Israël et ils s'installent à Nazareth. Alors j'aimerais attirer votre attention sur deux aspects de cette situation. Premier aspect, Dieu révèle sa volonté à Joseph en 2 temps. Ou si vous préférez, en 3 temps. D'abord, va en Égypte. Des mois plus tard, va en Israël, donc vers le nord. Et quelques temps plus tard, va à Nazareth. Alors, je souligne cela tout simplement parce que c'est très souvent comment Dieu agit. Il nous dit une chose, et quand on est prêt, il nous dit une deuxième chose, une troisième étape, une quatrième étape. Il ne nous dévoile pas toute notre vie quand on est jeune, mais c'est étape par étape, un pas à la fois. Et nous devons être prêts à accepter que Dieu nous conduise un pas à la fois. Parfois, on a envie de tout savoir. Mais non. Si on savait tout, je crois qu'on aurait 2 explosions. D'abord notre cerveau et ensuite notre cœur. Parce qu'on ne pourrait pas supporter de tout savoir, tout ce qui va m'arriver dans les années à venir. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa sagesse, révèle sa volonté petit à petit, peu à peu. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Un peu comme Abraham. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 8, « Abraham partit par la foi sans savoir où il allait. Et parfois, Dieu demande à un chrétien d'agir comme ça, par la foi, sans connaître tous les détails. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la ville où Jésus a été élevé. Jésus de Nazareth. D'ailleurs, dans le livre « Jésus pour les nuls », il y a une erreur monumentale dans ce livre, écrit par un collègue évangélique, qui a été corrigé dans la deuxième édition, d'ailleurs, parce qu'il a dit, qu'il a marqué que Jésus était né à Nazareth. Une petite erreur, hein. Rien de grave, mais dans la deuxième édition, il a bien corrigé qu'il était né à Bethléem. Mais il était élevé, il a grandi à Nazareth. Son père était, pardon, Joseph était le charpentier de Nazareth. Mais la ville de Nazareth et la région de la Galilée avaient une mauvaise réputation. Surtout la ville de Nazareth. Il y avait même un dicton comme quoi rien de bon ne peut venir de Nazareth. D'ailleurs, ce dicton, nous le trouvons même dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, 46, lorsque Philippe évangélise son ami Nathanaël. Nathanaël dit, Jésus de Nazareth, mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il pose la question, parce que ce n'est pas possible. Mais oui, grâce au Seigneur, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir des quartiers nord de Marseille? Oui, par la grâce de Dieu, il y a des chrétiens dans le quartier nord de Marseille. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir des Minguettes? Ah ben, il y a quelques mois, un prédicateur était ici, un musulman converti, qui était élevé aux Minguettes. Quand il y a Dieu dans la vie, tout peut se passer. Dans mon pays d'origine, le dicton c'est « Est-ce que quelque chose de bon peut sortir des quartiers est de Glasgow ?» Ah ben oui, parce que mon père est né dans le quartier est de Glasgow. Il s'est converti dans le quartier est. Mais les quartiers est ont une très mauvaise réputation. Mais il y a des églises dans ce quartier, et j'ai prêché dans deux églises il y a un mois, dans ce quartier, les quartiers est de Glasgow, où des voyous se convertissent. Tout ça pour dire, Dieu n'est pas limité par les, comment dire ça, par les dictons. Dieu peut agir à Nazareth. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans la ville de Nazareth, il y a une librairie évangélique tenue par un collègue de Brigitte et moi, des CBC. Il s'appelle George. Il vient de Nazareth, enfin, il habite à Nazareth. C'est un Palestinien, un musulman converti. Et avant de venir à Nazareth et de tenir sa librairie, vous savez ce qu'il faisait comme travail? Charpentier. Et à Nazareth, il a tout un ministère par Internet pour évangéliser le monde arabophone avec les cours bibliques par correspondance. Dieu agit encore à Nazareth. Il y a quelque temps, nous étions dans une ville où on avait des contacts avec des membres du Rotary Club, qu'on essayait d'évangéliser. Et il est question que je sois invité à une de leurs rencontres. Le Rotary Club, c'est un club, une association d'hommes et de femmes d'affaires, un peu comme le club Lyons. Et il est question que je sois invité pour expliquer un peu qui sont les évangéliques à ces hommes, à ces femmes d'affaires. En tout cas, ça ne s'est jamais fait. Mais un jour, j'étais dans un supermarché et une dame du Rotary Club me voit et dit, « David, viens voir, on a une dame ici d'Israël. » Je dis, « Ah oui, ah, c'est bien. » Donc, elle vient la rencontrer. Elle fait partie de Rotary là-bas, d'accord? Elle vient de Nazareth. Ah, ben ça alors. Donc, elle vient, l'ami me présente à cette femme, je lui serre la main. Et j'ai dit avec un grand sourire, mais je connais quelqu'un de Nazareth aussi. Donc, elle, ah bon? C'est qui? Donc, j'ai dit, ben, il est mort depuis un certain temps. Et j'ai dit avec un grand sourire, mais il s'appelait Jésus. Jésus de Nazareth. Bon, moi j'ai souri, elle n'a pas trop souri. Je crois que, et puis, bon, je vois qu'elle ne comprenait pas mon sens de l'humour, un peu tordu. Elle n'est pas la seule personne au monde à ne pas me comprendre. En tout cas, revenons à Joseph. Je maintiens à dire que c'était un homme courageux. Et qu'il nous est possible à nous tous d'être des hommes et des femmes courageux comme lui. C'est-à-dire, il était prêt à obéir à Dieu malgré ce qu'on allait dire. Dieu lui a dit, il fonce. Est-ce que nous sommes toujours prêts à obéir à Dieu, malgré ce que les autres vont dire? Il était prêt à ne pas marchander, à négocier, à faire un deal avec Dieu. Est-ce que nous sommes assez courageux pour dire, Seigneur, tu me le dis, je vais le faire. Je ne vais pas remettre un 2017 ou le 5 glinglin. Je vais le faire parce que tu me l'as dit. Et puis, c'est un homme courageux parce qu'il est prêt à obéir, même si ça entraînait des conséquences pas évidentes pour lui et sa famille. Quitter son boulot, quitter sa famille, ses parents, aller à l'étranger, redéménager. Il était prêt à obéir parce qu'il savait que Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Il y a deux versets dans Job que j'aime beaucoup. Job 34, 21 qui dit « Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. » Job, un autre verset dans Job 36, je crois. « Si les gens écoutent Dieu et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur. » Joseph était prêt à écouter Dieu et à se soumettre. Et nous savons qu'il a dû mourir assez jeune, parce qu'on ne parle plus de Joseph. Donc il n'avait pas une longue, longue vie, sans doute. Mais on sait qu'il a obéi à Dieu. Et obéir à Dieu nous apporte la paix et aussi le bonheur. Je termine en faisant allusion à un autre homme courageux qui a marqué l'histoire. Le Sadhu Sundar Singh, un Indien. Vous voyez la date? Il s'est converti il y a 112 ans aujourd'hui. C'était un homme d'une famille religieuse indienne, hindoue. Le sadhu, ça veut dire l'homme saint. Et il était destiné à devenir un homme saint dans la tradition indienne. Alors, il s'est converti. Il a mis du temps à se convertir. La première Bible qu'il a eue, je crois qu'il l'a jetée au feu. Mais il s'est converti. Il est devenu évangéliste. Et il est mort dans des conditions, dans des circonstances, on va dire, non élucidées, à 39 ans. C'était un homme courageux, parce que ses parents étaient contre sa conversion. Ses voisins étaient contre sa conversion, ses collègues étaient contre sa conversion, sa famille était contre sa conversion, mais il a marché avec le Seigneur. Un homme convaincu, consacré et un homme courageux, mort à 39 ans. Comme Joseph, il était prêt à foncer. Comme Joseph, il était prêt à obéir, même si ça allait coûter quelque chose. Et pour lui, ça lui coûtait la vie. Peut-être pour nous, jamais ça nous coûtera la vie. Mais même si ça nous coûte, Jésus a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il se charge de sa croix, de son sac à dos, qu'il se décharge de ses soucis et de ses craintes, et qu'il me suive. Dans notre livre de chants, il y a un chant qui est attribué au Sadhu Sundar Singh. Et ce chant s'appelle « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe. Moi, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe. Moi, j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. » Et le troisième couplet, au monde, je dis non. Joyeux. C'est difficile de chanter ça. Je peux vous le dire. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Le Seigneur peut nous aider à dire cela, à chanter cela. Et surtout à vivre cela. Si on est prêt à venir dire, Seigneur, tu es le maître du ciel et de la terre. Je ne suis que l'argile, mais je veux t'obéir. Et je veux accepter ta volonté, quelle que soit, parce que tu es le maître. Prions. Père Céleste, merci, car tu as donné le courage et la force à Joseph, à Sadhu Sundar Singh et à des millions d'autres chrétiens pour qu'ils t'obéissent. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à être courageux, à chasser la peur, la crainte du qu'en dira-t-on, des critiques, des rumeurs, des mensonges à notre sujet. Aide-nous, Seigneur, à être prêts à obéir à ta voix, même si cela nous coûte, même si les autres ne nous comprennent pas. Donne-nous le courage pour suivre l'exemple de Joseph. Et merci, Seigneur, pour ce qu'il a fait pour notre Seigneur Jésus. Il n'a pas dû tout comprendre, mais merci car il était prêt à t'obéir. Et aide-nous, Seigneur, à marcher sur ses traces. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.